Bien, bonsoir à tous, que ceux qui viennent de nous rejoindre. Et donc, nous lançons dans l'Épître aux Galates. Je suis désolé parce que, évidemment, quand j'ai accepté cette proposition attrayante, je ne pensais pas qu'on serait en plein confinement, la veille de la reprise des messes avec 30 personnes à organiser. Donc, cet après-midi, je pensais avoir le temps de travailler à nouveau. Et heureusement, j'avais un peu anticipé. Mais, donc, et puis. Et que tous les autres prêtres de ma paroisse seraient partis, etc. Donc, ce n'est pas la situation la plus facile, mais en même temps, je suis ravi du coup de passer ce moment-là avec vous plutôt que de m'occuper de logistique paroissiale et surtout de me replonger dans cette épître que j'aime beaucoup. Je vois, avec l'épître aux Éphésiens, c'est mes deux épîtres préférées donc, de Saint Paul. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté volontiers quand on me l'avait proposé. Et puis, elle a une actualité folle parce qu'il est question de liberté, de la liberté du chrétien. C'est un peu le titre ou le sous-titre de mon exposé, La liberté du chrétien, l'épître aux Galates ou la liberté chrétienne. Évidemment, on s'interroge beaucoup avec la liberté de culte et avec le fait d'aller à la messe ou pas aller à la messe, du lien entre la messe et nos activités temporelles. Eh bien, cette question de la liberté chrétienne est vraiment au centre de nos réflexions en ce moment. Donc, je pense que l'épître aux Galates pourra nous y aider. La première chose que je voudrais dire en introduction, c'est, si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez cette épître surtout d'un seul coup. C'est une grâce propre aux épîtres de Saint Paul, hein, de les lire d'un seul coup. Alors, on va voir que la Galatie, ce n'est pas très évident à déterminer, mais lorsque j'ai eu la joie d'aller en Turquie et en Grèce sur les pas de Saint Paul, lire l'épître aux Colossiens à Colosse, où il reste trois pierres, hein, lire l'épître aux Thessaloniciens à Thessalonique, qui est une énorme ville, c'est les deux épîtres. Il y a vraiment une grâce particulière qu'on pratique trop peu, une lecture intégrale, et vous ne lisez pas les titres, les sous-titres, tout ça ne fait pas partie du texte. Et donc dans votre Bible, si vous ne l'avez pas encore fait, vous le faites ce soir avant de vous coucher ou demain, ou si vous l'avez déjà fait, vous allez relire l'Épître en entier. C'est vraiment une très grande richesse, une très grande expérience spirituelle. Et alors peut-être particulièrement celle-là, qui est vraiment fondée sur l'expérience spirituelle de Paul encore plus que les autres. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est la thèse de Paul. Voilà, c'est la première chose que je peux vraiment vous conseiller. De lire cette lettre d'un seul coup et de la laisser un peu résonner en vous. C'est vrai pour tous les livres de la Bible, mais plus encore pour celle-là. En fait, je relève tout de suite deux caractéristiques de cette lettre, de manière un peu comme ça, déjà pour nous permettre d'y entrer peu à peu. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de la lire, je ne sais pas si dans les précédentes conférences vous avez lu ensemble, etc. Vous me direz si c'est trop frustrant de ne pas assez lire le texte. On peut prendre le temps de la lire, mais ça va nous prendre quand même un peu de temps. Donc, je vais plutôt essayer d'en parler. Mais c'est d'abord la lettre où Saint Paul apparaît avec le plus de singularité. C'est le témoignage le plus personnel de Paul parmi toutes ses lettres, le plus intime, on pourrait dire. Et avec, donc ça, je relève deux caractéristiques pour commencer, pour nous introduire à cette lettre. Et. Parce que Paul raconte, en fait, il y a une dimension autobiographique très forte, hein, dans le chapitre 2, si vous l'avez lu. D'abord, il raconte déjà à la fin du chapitre 1, il raconte sa conversion, hein, et puis ensuite, au chapitre 2, c'est toujours intéressant de se mettre un peu dans le crâne et dans le cœur, surtout, qu'y a-t-il dans chaque chapitre. C'est une bonne manière aussi de mémoriser. Bible fermée, alors il y a quoi dans Galates 1, dans Galates 2, dans Galates 3? Bon, les chapitres, vous savez qu'ils ont été rajoutés extrêmement tard, mais en même temps, ils ont quand même une cohérence qui nous permet de mémoriser l'Évangile. Vous avez étudié Saint Matthieu, c'est la semaine dernière, avec le Père Leproux. Alors, chez Saint Matthieu, ça fonctionne à fond parce qu'il construit vraiment une cathédrale chapitre par chapitre, bloc par bloc. Mais chez Saint Paul aussi, on trouve un peu ça. Donc, d'abord, il y a cette conversion de Paul, et puis ensuite, il raconte comment il est retourné à Damas, et puis une première montée à Jérusalem, et puis une deuxième montée à Jérusalem. On reverra ça, la rencontre avec Pierre et Paul et Jacques, un incident, une dispute assez virulente à Antioche. Et en fait, tout ça, c'est raconté dans les Actes des Apôtres. Ça colle plus ou moins, donc c'est un exercice intéressant, hein, que j'ai déjà essayé de faire, de faire coller les deux. Donc, je vais sûrement me perdre dans tous mes papiers parce que je vais m'appuyer sur différents textes ou différents papiers que j'ai faits, mais j'avais prévu de vous montrer ça. Donc je sais pas si en tout cas, la correspondance entre les événements racontés dans l'Épître aux Galates et puis les événements des Actes des Apôtres qui. Donc, c'est dans le début des Actes des Apôtres, hein, qui colle plus ou moins, vous verrez, mais en tout cas, vous pouvez faire ce petit exercice qui est assez intéressant. Je ne le retrouve pas à l'instant, mais je vous le retrouverai tout à l'heure quand on en sera là. Donc, c'est un témoignage très historique de Paul, très personnel, très intime, et en même temps aussi très mystique. Hein, Dès le début, il s'agit d'être configuré au Christ. Paul raconte comment il a été mis à part et comment Dieu a révélé le Christ en lui. Donc, c'est difficile de m'adresser en même temps à l'écran et à la section blanche. Je vais laisser tout à vous qui êtes devant moi, ce sera plus vivant. Et les autres en profiteront par rayonnement. Mais voilà, c'est une épître où Paul parle beaucoup de lui et de sa relation la plus personnelle au Christ. Et c'est vraiment ce qui la différencie de beaucoup d'autres. Donc ça, c'est une première caractéristique. Une deuxième caractéristique sur laquelle j'insiste volontiers, c'est que c'est un coup de sang. C'est vraiment de la part de Paul, c'est un coup de sang, un coup de colère. C'est la seule lettre de Paul qui ne commence pas par une bénédiction. Si vous regardez toutes les lettres de Paul, vraiment, je rends grâce à Dieu dans mes prières pour tout ce que vous avez fait. Etc. Donc, il leur dit à vous la grâce et la paix, mais il ne rend pas grâce pour leur foi, pour leur prière. C'est un exercice très intéressant de comparer tous les commencements des épîtres de Paul. C'est quand même pas très long. Et vous repérez évidemment des constantes et vous repérez aussi des différences. Et là, Paul, il va tout de suite leur dire vraiment, je m'étonne à ce que vous ayez abandonné l'évangile. Donc, tout de suite, il va leur, on pourrait dire, leur sauter au cou en leur disant il y a un problème chez les Galates. Et évidemment, il y a ce fameux verset 1 du chapitre 3 qui est, on pourrait dire, le point d'appui de Paul pour toute sa démonstration aux Galates stupides qui donc vous a ensorcelé. Et puis, alors, à nouveau, au chapitre 5, verset 12, c'est quasiment une grossièreté de Paul. Qu'ils aillent donc jusqu'à se mutiler, ceux qui sèment le désordre chez vous. Enfin, il est assez cash, quoi. La colère de Paul déborde et Paul est furieux contre ceux qui ont troublé les Galates. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. C'est une lettre, donc ça, c'était deux petits points d'introduction pour commencer sur le fait que c'est l'épître la plus personnelle, à la fois parce que c'est une autobiographie et parce qu'on touche au cœur de la relation d'intimité de Paul et du Christ lui-même. Et puis, parce que cette deuxième caractéristique, c'est aussi un coup de sang, un coup de colère. Et donc, il faut la prendre comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un traité, évidemment, c'est extrêmement théologique, mais ce n'est pas du tout un traité de théologie construit partie par partie. Mais c'est quand même ce qu'on appelle, du point de vue de la rhétorique, qui est très utile pour étudier saint Paul, puisque Paul était au fond formé à toutes ces méthodes rhétoriques. C'est ce qu'on appelle le genre délibératif. Il s'agit de faire prendre une décision. Il s'agit de faire prendre une décision. Vous avez au fond le cheminement d'une conscience qui va se décider. Donc, ce n'est pas un genre judiciaire, c'est un genre délibératif. Et je vais y revenir aussi, mais ce n'est pas un éloge. Voilà, les trois grands genres en rhétorique, vous savez, l'éloge, le genre judiciaire et la délibération. Et donc, c'est vraiment, maintenant, il faut vous décider, il faut choisir. Il faut provoquer une décision libre pour les Galates et pour tout lecteur. Donc, évidemment, pour nous aussi. C'est une épître qui veut nous permettre de choisir à nouveau le Christ si nous l'avions oublié. Et donc, il y a une tension fondamentale dans cette épître. Ce n'est pas très simple de s'y repérer parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'on retrouve aussi dans l'épître aux Romains. Les deux épîtres sont assez proches, mais Romains, je ne sais pas si vous avez une soirée sur l'épître aux Romains, Romains est vraiment plus construit comme un traité théologique, une démonstration théologique, moins circonstancié. Là, on est vraiment dans un écrit de circonstance au sens fort du mot. Ça a toutes les caractéristiques aussi d'une prédication, une catéchèse, je ne dirais pas forcément d'une homélie liturgique, mais d'une catéchèse où Paul va s'exprimer vis-à-vis des Galates. On va le voir, mais il va parler de ses entrailles de mère et qui enfante dans la foi ses fils et qui voit que ses fils s'éloignent de la foi pour un autre évangile. La tension fondamentale, où je disais ça par rapport à l'épître aux Romains, on retrouve les mêmes questions dans l'épître aux Romains sur la loi et la foi. Ça va être un des grands enjeux. On retrouve les mêmes questions sur la loi et la promesse. On retrouve les mêmes questions sur la chair et l'esprit. Alors, on verra que c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Mais surtout, en fait, la tension fondamentale ici, elle est incluse elle est annoncée dès le début de l'épître, en fait, et elle englobe toute l'épître. C'est à vous la grâce et la paix au verset 3. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nos péchés afin de nous arracher à ce monde mauvais. Ça, c'est ce que c'est, Paul dit, voilà ce que Jésus a fait, d'accord? Et en fait, il faut aller tout à la fin de l'Épître, au chapitre 6, verset 14. Vous savez que c'est toujours une manière juive aussi, et grecque, parce qu'on est dans un judaïsme hellénistique, bien sûr, mais de faire ces inclusions. Et en fait, cette tension fondamentale, elle s'achève au verset 14, « Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté, Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être incirconcis ou circoncis, c'est d'être une création nouvelle. Et donc, ce que veut faire Paul, en fait, par cette lettre, c'est, et c'est pour ça aussi que cette lettre est dans le canon des Écritures, c'est nous faire passer de ce monde mauvais à la création nouvelle. Et toute la question, ça va être comment ça va s'opérer? Eh bien, justement par la croix du Seigneur. Ma seule fierté est dans la croix du Seigneur. Et je crois que toutes les autres tensions de cette lettre entre loi et foi, entre chair et esprit, au fond, elles sont contenues dans cette tension fondamentale. Comment est-ce qu'on va sortir de être arraché à ce monde mauvais par Jésus aujourd'hui pour entrer dans cette création nouvelle? Que signifie être une création nouvelle? Évidemment, c'est une épître baptismale, comme beaucoup d'épîtres de Paul, comme l'épître aux Éphésiens, parce que la création nouvelle, c'est le baptême. Hein, c'est donc comment la vie. Mais vous voyez, saint Paul. Alors, je vais revenir un peu maintenant sur le contexte de l'épître, parce que ce n'est pas facile de la situer exactement, mais il a fondé cette communauté en Galatie, et voilà qu'il apprend qu'ils se détournent de cette communauté, en tout cas que cette communauté se détourne du Christ que Paul a annoncé. Objectivement, c'est un problème récurrent dans les lettres de Paul, hein, mais ça ne prend pas toujours une telle violence que dans celle-ci. Pour situer maintenant le contexte un peu de l'épître aux Galates, c'est pas en fait dans toutes vos introductions de Bible, hein, c'est toujours une bonne manière de faire. Vous avez des indications. Vous avez aussi le livre de Marie-Françoise Basselez. Je voulais pas apporter, mais vous le trouvez facilement. Basselez, qui est aujourd'hui la meilleure référence, on va dire, sur saint Paul, et aussi d'un dominicain qui s'appelle Murphy O'Connor, Jérôme Murphy O'Connor. Moi, j'ai surtout d'abord travaillé avec lui, mais maintenant je me suis mis à Basselez et c'est vraiment très bien. Et donc, Paul a fondé la communauté de Galatie. La Galatie, même le lieu est disputé, si vous voulez. Je vais vous retrouver la carte que je vous avais prévue aussi. La Galatie, le plus courant, c'est de dire que c'est dans le nord de la Turquie actuelle, hein, qu'à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, on appelait l'Asie. Quand Paul dit « nous sommes allés en Asie », il désigne la Turquie actuelle. Si j'enfonce des portes ouvertes ou si c'est trop compliqué, vous me dites aussi, vous réagissez, voilà. Voilà, j'ai retrouvé les deux montées. Et puis, donc, là, la carte, parce que je ne sais pas trop bien ce que ça va donner, vous regarderez, voilà, cette petite carte. Mais au moins, je la montre à ceux qui sont là, vous la regardez. Et donc, vous avez la galaxie qui doit être quelque part par là, tout au nord, voilà. C'est pratiquement la côte de la mer Noire, côté turc. Voilà. En fait, ce n'est pas hyper sûr, quand même. Il y a même certaines hypothèses qui disent que les Galates, c'était les Gaulois. Les Galates, Gaulois, la racine même du mot, vous avez déjà entendu ça, Guillaume. En fait, je crois aujourd'hui que le plus probable, c'est quand même que ce soit dans cette région-là, parce que c'est attesté dans les voyages de Paul, qu'il est passé plusieurs fois par ici. Et a priori, c'est une communauté que Paul a fondée dans son deuxième voyage missionnaire. Les voyages de Paul, c'est très compliqué, mais ça vaut la peine toujours d'essayer de les refaire à partir des cartes de sa Bible. Et au bout d'un moment, on finit un peu par comprendre quand même. Dans le premier voyage, Paul est surtout resté dans le centre de la Turquie actuelle, le centre ouest, et donc avec toutes les villes qui sont, vous avez Antioche de Pisidie, Derbe, etc., Lystre. Voilà, vous ne voyez pas très bien, mais vous regardez sur vos cartes de Bible. Hein, voilà. Et c'est seulement à partir du deuxième voyage qu'il est allé beaucoup plus à l'ouest et qu'il va passer, bien sûr, en Grèce, en Macédoine. Donc ça, dans les Actes des Apôtres, on a ça au chapitre 16. Mais en tout cas, probablement, il a fondé cette église pendant le deuxième voyage. Et en fait, ce serait pendant le troisième voyage qu'il entend parler du fait qu'à Galates, en Galatie, pardon, chez les Galates, il y a des faux frères, il va en parler. Il y a ceux qui viennent détourner les Galates de l'évangile qu'ils ont reçu. Alors, c'est un peu discuté pour savoir quand est-ce que cette épître a été écrite. Vous avez certaines hypothèses qui mettent cette épître même carrément comme la première, mais c'est pas très attesté. Vous savez qu'habituellement, on reconnaît que les premières lettres de Paul publiées, c'est les deux épîtres aux Thessaloniciens. Et aux Thessaloniciens qui ont été écrites probablement dès les années 50, au début des années 50, ou peut-être entre 50, 55, 56. Et en fait, ce sont les premiers écrits du Nouveau Testament. Hein. J'espère que vous avez bien ça en tête, que l'Évangile, c'est bien postérieur, hein, au moins 10 ans. Donc, le premier écrit du Nouveau Testament, ce sont les deux épîtres aux Thessaloniciens, ou peut-être Galates, mais le plus probable, c'est que Galates vienne dans le deuxième corpus avec les deux épîtres aux Corinthiens, Philippiens et Romains. Éphésiens, c'est plus tardif et c'est une synthèse de toute la théologie paulinienne qui n'est peut-être même pas de saint Paul lui-même, mais en tout cas, probablement Donc, il aurait fondé en fait Galate lors de son deuxième voyage missionnaire, l'église des Galates, pardon, dans son deuxième voyage missionnaire, et il leur aurait écrit pendant le troisième voyage. Pendant le troisième voyage, en fait, il a fait deux longs séjours, un d'abord à Éphèse et ensuite à Corinthe. Il a passé pratiquement 3 ans à Éphèse et 2 ans à Corinthe, et il aurait écrit depuis Éphèse ou depuis Corinthe, qui étaient quand même les deux grandes villes hein, où Saint Paul s'est établi, et non seulement est passé, mais s'est établi. Il aurait écrit depuis Corinthe ou depuis Éphèse cette lettre aux Galates pour les engueuler, parce que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer dans ce que nous allons lire. Voilà, vérifiez si vous n'avez pas d'autres choses à vous dire là-dessus. Alors, une des questions évidemment importantes dans cette épître, c'est qui sont les adversaires de Paul, hein? Qui sont les adversaires de Paul? Parce que on en parle beaucoup. En particulier, ce sont les mêmes adversaires qu'à Corinthe, en fait. C'est pour ça qu'il est assez probable que Paul ait écrit cette épître à Corinthe. On a quand même le même genre de situation. Alors, même genre et différente. Même genre parce qu'il y a vraiment une très forte contestation à Corinthe comme en Galatie. Mais à Corinthe, c'est plutôt parce que les Corinthiens qui sont devenus chrétiens, en fait, se mettent à vivre comme les païens, puisque Corinthe était une ville extrêmement marquée par le paganisme, alors qu'on va le voir que chez les Galates, le problème, il est plutôt réciproque ou inverse, c'est que ce sont des juifs ou des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs devenus chrétiens, mais plus attachés finalement au judaïsme qu'au christianisme, qui vont semer la pagaille chez les Galates. C'est une question qui n'est pas simple, évidemment, parce Paul ne dit pas exactement qui sont ses adversaires, mais voilà, il est probable, hein, quand on lit l'épître, que ce soit des judéo-chrétiens. Donc, hein, vous savez, on désigne par judéo-chrétiens des chrétiens venus du judaïsme, qui étaient au début, en fait, la majorité, évidemment, des chrétiens, et qui sont, en fait, qui se sont. Qui ont fait comme on pourrait dire une sorte de, on dirait de manière un peu simple, un retour en arrière et qui vont s'attacher finalement plus à la pratique de la loi qu'à la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul va dénoncer. Donc, ces judéo-chrétiens, ils viennent de Jérusalem. Paul en parle, notamment en parlant des faux frères. Et leur point, c'est de dire, en fait, on est obligé de devenir juif pour pouvoir être chrétien. C'est ça la question j'allais dire, la plus disputée. Est-ce qu'on est obligé d'adopter les rites juifs, en particulier la circoncision, et tous les commandements de la loi juive pour être chrétien? Oui.
C'est des juifs à la
Ça.
base
Ouais.
qui redeviennent juifs, en fait, c'est un peu ça.
Bah, qui sont chrétiens, mais qui, au fond, veulent imposer à tous les chrétiens de passer par le judaïsme.
D'accord.
Ça, c'est vraiment la question qui est derrière, Galate et qui est traitée dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15. Au Concile de Jérusalem, il semble que Paul, en tout cas Paul raconte qu'il est monté 2 fois à Jérusalem, la loi juive, pour devenir chrétien. Peut-être que ça va là-dessus. C'est-à-dire que vous vous imaginez que le christianisme est né du judaïsme. C'est-à-dire que bon, c'est une évidence de dire ça, mais il n'y a pas eu une rupture nette. C'est-à-dire que on a ça dans les Actes des Apôtres. Hein, les premiers chrétiens vont au temple chanter les louanges de Dieu, certainement offrir des sacrifices, et puis ensuite ils vont chez eux. À la maison pour l'Eucharistie. Ça ne leur pose aucun problème. On a ça dans tout le début des Actes des Apôtres. Hein. C'est le martyr d'Étienne, en vérité, au chapitre 7 des Actes des Apôtres. Je suis en train de travailler les Actes des Apôtres avec des paroissiens par Zoom dans cette même salle le mardi soir, donc je suis plongé dans les Actes en ce moment. Dans les Actes des Apôtres, c'est le martyr d'Étienne qui va quand même consommer un peu la rupture, en tout cas avec toutes les autorités juives, hein, de manière définitive. Mais il faut s'imaginer quand même que pendant tout le premier siècle, il y a quand même un tuilage. Après, ce sera plus avec les autorités du temple, il y a une rupture, mais après, ils iront à la synagogue. Paul va toujours être dans les synagogues, etc. Donc, on n'est pas de passer tout d'un coup du judaïsme au christianisme. Il ne faut pas s'imaginer ça. Là, ça va vraiment se faire en deux temps, mais ce qu'on appelle la première révolte juive en 70 et la deuxième révolte juive en 135. Le concile de Yabné, aux alentours des années 90-95, qui va obliger en fait les juifs à affirmer leur identité contre les chrétiens. Pour dire, bah, et sinon, entre guillemets, ça pourrait se propager, enfin, au sens où il faut vraiment s'imaginer que la première communauté chrétienne, elle était juive, donc judéo-chrétienne. Tout ce dont il est question dans l'Épître aux Galates avec les fils d'Abraham. Donc, En tout cas, il y a ces contre-prédicateurs qui sont là, hein, qui sont vraiment. Donc Paul les appelle les faux frères, hein, en disant qu'ils viennent de Jérusalem au chapitre 2. Et ils viennent de Jérusalem en Galatie. Donc, vous voyez, on dirait un peu que c'est les durs de durs, là. Et ils vont. En fait, le point central, c'est qu'ils mettent en cause la croix du Christ. Et c'est pour ça que Paul dit notre fierté, c'est la croix du Christ. Notre fierté, c'est la croix du Christ. Vous savez, sainte Edith Stein, vous voyez. À des très belles pages aussi pour dire c'est le titre de noblesse des chrétiens, c'est la croix du Christ. C'est vrai qu'elle s'est appelée Thérèse Bénédicte de la Croix. Donc cette épître nous fait réfléchir sur ce que signifie faire le signe de croix, que signifie porter une croix, que signifie être configuré au Christ crucifié. C'est ce que dit Paul, disant, je suis crucifié avec le Christ, hein, donc on va y revenir tout à l'heure, mais avec le Christ je suis crucifié, hein, chapitre 2, verset 18 ou 19, j'arrive plus à lire, mais c'est la thèse de l'épître en fait, verset 19. Avec le Christ, je suis crucifié. Donc, ce n'est pas tellement la croix du Christ comme une réalité étrangère à moi. C'est avec le Christ, je suis crucifié. Et alors, bien sûr, on dit souvent, oui, c'est d'abord une épître sur les questions de loi, de foi, de chair, d'esprit. C'est vrai, mais encore une fois, vraiment, ces questions-là, elles trouvent leur sens dans la question comment la croix du Christ nous arrache au monde mauvais pour nous faire entrer dans la création nouvelle. Et donc, il y a tout cette tension et ce chemin-là. Les contre-prédicateurs, ils attaquent Paul sur deux points. D'abord, sur des attaques personnelles, mais il y a assez peu de réponses dans l'Épître aux Galates, si ce n'est pour faire au début un peu son apologie, c'est le titre qui est donné, enfin, pour montrer qu'il était virulent contre les chrétiens et que Dieu l'a retourné. Mais en fait, il y a d'abord des problèmes, c'est surtout sur des problèmes de fond, et tout semble voler en éclats. Tout semble voler en éclats. Et donc la question, c'est au fond, comment, quand quelqu'un vient contester l'évangile, comment est-ce qu'on peut, comment lui répondre ? Quand quelqu'un vient contester l'évangile qu'on a reçu peut-être de manière pas encore assez profonde, comment est-ce qu'on va lui répondre ? C'est aussi beaucoup ce qu'on appelle dans la vie spirituelle la deuxième conversion. C'est-à-dire qu'on se convertit, tout est beau, et puis comment durer dans la vie spirituelle ? Il y a beaucoup ça dans la vie monastique en particulier. Hein, je ne surveille pas trop l'heure, mais ça, au bout d'un moment, ça s'arrêtera, puis on passera sur la deuxième. Comment est-ce que, quand vient le temps des contradictions, des remises en cause, qu'elles soient extérieures ou intérieures, évidemment, ici, elles sont extérieures, mais en réalité, c'est une leçon de vie spirituelle aussi pour nos propres contrariétés intérieures. Comment enraciner encore plus profond l'évangile en nous ? Alors, le plan de cette lettre. Maintenant, il a été pas mal discuté. En fait, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je m'appuie sur notamment un exégète italien qui montre que cette lettre est faite pour prendre une décision. Pour prendre une décision. Et donc, à travers toute la narration que Paul va faire, d'abord de sa propre expérience, et puis ensuite une narration biblique, en prenant Abraham, etc. Et puis. Très centré en fait sur Abraham, hein, jusqu'au bout pratiquement. Ce que Paul veut montrer, c'est que l'évangile vient de Dieu. L'évangile n'est pas une invention humaine. Ça permet de dire un point très important avant d'oublier sur le début, donc sur ce qu'on appelle l'exorde, hein, donc qui est le début du premier chapitre. C'est quand même étrange que Paul dise, je suis au verset 5, pourtant, même un peu avant, on pourrait dire, hein, je m'étonne que vous abandonniez si vite. Celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez un évangile différent. Première expression étrange, je vais y revenir. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trou parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avions annoncé, qu'il soit anathème, il répète deux fois, hein, si quelqu'un vous annonce un évangile différent. Et puis, maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je vais me faire approuver ? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire ? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Ce qui est très étonnant, c'est de parler d'un évangile différent. C'est étonnant, un double titre. D'abord parce que Paul parle de l'évangile, alors que l'évangile n'a pas du tout été écrit, vous avez bien compris ça. On est bien avant, quoi qu'il arrive, on est avant l'évangile. Hein. L'évangile n'a pas été écrit. Alors, éventuellement, il y a déjà une transmission orale. On se raconte l'évangile. Et en particulier la passion, la mort et la résurrection, qui sont le noyau central de l'évangile. Je ne sais pas si Pierre Le Pouf vous en a parlé la semaine dernière, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on a. C'est à partir de là, parce que c'est l'événement central, en fait. Hein. L'évangile, c'est d'abord un événement, et ces épîtres, elles font d'abord aussi référence à un événement. Hein. C'est l'événement de l'annonce de l'évangile aux Galates, et ensuite de la tentative de les détourner de leur foi. Et donc, l'événement précède toujours le document. Et donc, en fait, cet évangile, il n'est pas écrit. Et donc, c'est une référence très intéressante pour nous permettre de comprendre ce qu'est l'évangile. L'évangile n'est pas d'abord un livre. L'évangile n'est pas d'abord un livre. C'est d'abord une personne, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce que disaient les pères de l'Église. L'évangile, le Christ, c'est l'évangile en personne. L'évangile, c'est d'abord une personne. Le Christ, c'est d'abord un acte aussi. Transmettre la vie de Dieu, transmettre l'expérience vécue par Jésus et ses apôtres aux générations suivantes. À la fin, on a un moment où on s'est dit, pour ne pas le perdre, il faut le mettre par écrit. J'allais dire exactement comme dans l'Ancien Testament, avec Abraham, Moïse, qu'on a mis par écrit, évidemment, beaucoup, beaucoup plus tard. Donc ici, Paul parle d'un évangile avant même que l'évangile soit rédigé. Très intéressant pour nous sur ce qu'est l'évangile. Bien sûr, la lettre écrite de l'évangile nous donne accès à l'évangile, mais l'évangile est comme un mystère, j'allais dire, incandescent et en tout cas débordant, qui déborde largement les mots dans lesquels il s'est, incarné ou... Oui, incarné, on peut le dire pour l'évangile, on dit ingraphé, on parle d'ingraphie pour l'Ancien Testament déjà, mais en tout cas incarné dans cette lettre. Et puis, Paul parle d'un évangile différent. C'est vraiment un autre évangile. Littéralement, c'est un autre évangile en un seul mot. Et donc, un autre évangile, c'est quand même une question, ça veut dire qu'il y avait peut-être plusieurs évangiles. En tout cas, certains pensaient qu'il y avait plusieurs évangiles. En tout cas, les contradicteurs de Paul se prétendait agir au nom de l'évangile. Vous vous souvenez, Jésus dans l'évangile dit ça plusieurs fois, à cause de moi et de l'évangile. Donc certains probablement utilisaient l'évangile pour dire, mais nous, ce qu'on vous dit, c'est l'évangile. Vous devez tous être circoncis, vous devez tous pratiquer la loi juive, vous devez tous être juifs pour pouvoir devenir chrétien. Faut-il être juif pour pouvoir devenir chrétien? Ça va, donc déjà, comme ça me paraît un élément très important, et Paul insiste, vous savez, tous les livres bibliques, et alors, peut-être particulièrement les livres du Nouveau Testament qui sont assez brefs, sont très économes de mots. La manière biblique de rédiger, c'est de ne pas en rajouter des tonnes. Et donc, quand quelque chose est répété deux fois, comme ici, la même phrase, ce n'est pas parce que Paul s'est trompé dans ses papiers. C'est parce que vraiment, il veut insister là-dessus. Donc, on vous annonce un évangile différent. Eh bien, il n'y a pas d'évangile différent. Voilà. Il n'y a pas un autre évangile. Et ça, c'est une tentative de changer l'évangile du Christ. Et en fait, ce que Paul va montrer, c'est que ceux qui agissent ainsi agissent à la manière des hommes et non pas à la manière de Dieu. Est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Donc, il y a une première alternative ici, plaire à des hommes ou plaire à Dieu. Ou être serviteur de Christ, plutôt. Il ne dit pas plaire à Dieu, c'est être serviteur de Christ. Hein, oui. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le début, le tout premier mot, Paul, apôtre, il commence toujours comme ça pour dire qu'il est vraiment apôtre, ce qui est déjà en soi une question immense, parce qu'en réalité, il faisait pas partie des douze, mais il se rattache au Christ par sa conversion sur le chemin de Damas. Paul, apôtre, envoyé par des hommes, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, donc déjà double insistance, mais par Jésus-Christ et par Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ainsi que tout. Alors, je reviendrai après sur les frères. Mais vous voyez, donc. C'est une première dialectique, j'aime pas bien ce mot, mais en tout cas une première tension entre est-ce qu'on vient des hommes ou est-ce qu'on vient de Dieu. À tel point que certains disent la thèse de l'épître est là. Et moi, il me semble que ça ne suffit pas. En ce sens, je suis plutôt l'exégète italien qui s'appelle Pita, parce que je crois qu'en fait la thèse elle est plus loin. Mais c'est comme c'est comme ce qu'on peut appeler une prothèse pour déjà dire à la fin de. Si je crois que ça existe, on parle de prothèse avec un tiret, enfin en tout cas en rhétorique, pour dire, au fond, Paul va s'appuyer là-dessus, mais il s'appuie là-dessus pour dire, voilà, à partir de là, maintenant, je vais argumenter, oui, à la fin de son exorde. Mais je ne crois pas que ce soit la thèse de toute épître, parce que ça me paraît, en fait, ça me paraît un peu court, mais c'est une première tension qui va être incluse dans la tension fondamentale qui est, est-ce qu'on est dans le monde pécheur, le monde mauvais, ou est-ce qu'on passe à la création nouvelle, ce qui a aussi une connotation très apocalyptique. Vous avez parlé de l'Apocalypse il n'y a pas très longtemps, je crois. Donc, on est vraiment aussi. Il y a dans cette épître aussi, comme souvent chez Paul, quand même la perception et l'intuition que le retour du Christ est proche, et que donc il n'y a pas de temps à perdre quand même. Il y a une urgence. Et puis, on est vraiment dans la révélation. Tout ce qu'il dit sur son propre itinéraire, c'est Dieu le Père a trouvé bon de révéler le Christ en moi. Donc, on est quelque part dans un genre littéraire apocalyptique aussi. Donc cette vous voyez que déjà comment cette introduction est extrêmement riche dans ces premiers versets, cet exorde, Et on va donc ensuite avoir le chapitre 2, enfin la fin du chapitre 1, pardon, et le chapitre 2. Hein, Paul va montrer que l'évangile vient de Dieu, que l'évangile vient de Dieu, et que l'évangile, qu'il vit l'évangile intérieurement, qu'il est uni au Christ intérieurement. Et c'est pour ça que je crois en fait que la thèse, elle est à la fin du chapitre 2, et je pense, j'ai même tendance à penser que c'est la thèse, au fond, c'est comme la thèse de toutes les épîtres pauliniennes. Hein. Je vis, mais ce n'est plus moi, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Hein. Chapitre 2, verset 20. Ou on peut commencer même au verset d'avant, avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, et non dans la pratique de la loi, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Donc, Paul va montrer, en fait, ça, il le dit, il est en train de raconter, en fait, l'incident à Antioche avec Pierre. Hein. Donc, il est en train de dire, mais en fait, à ce moment-là, Pierre a compris, au fond, que ce que je vivais venait vraiment du Christ. Que ce que je vivais venait vraiment du Christ. Bon, après, cette thèse-là inclut une autre thèse qui est la thèse de l'Épître aux Romains, mais qu'on retrouve ici, au verset 16 du chapitre 2. C'est pour ça que je pense que ce qui est spécifique à Galates, ce n'est pas ça, c'est le fait que le Christ vit en moi et que je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et tout le reste, en fait, ça va être des conséquences. Toute ma vie chrétienne, toute ma liberté de chrétien, ça va être des conséquences de cette vie du Christ en moi. Et donc, ce qu'est la thèse de l'Épître aux Romains, mais que Paul reprend ici au verset 16, c'est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus, pour devenir des justes par la foi au Christ, des justes par la foi au Christ, et non par la pratique de la loi, puisque par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste. Donc, c'est la foi qui sauve, hein, c'est pas la loi. J'espère que je vais y revenir tout à l'heure, s'il me reste du temps. En tout cas, à partir de là, donc vous voyez, on a des deux premiers chapitres qui sont vraiment biographiques. Hein. Paul raconte donc sa conversion chapitre 1, verset 16. Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère, exactement comme les prophètes, hein, comme Jérémie. Hein, il y a quand même souvent beaucoup de proximité entre Jérémie et Paul. Il a trouvé bon de révéler en moi son fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Donc voilà la vocation de Paul. En fait, Dieu a révélé en Paul Jésus pour qu'il l'annonce parmi les nations païennes. Donc là, ça c'est exactement ce qu'il va redire après dans la thèse. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc il raconte ce qu'il fait une première fois à Jérusalem, puis au bout de 14 ans, etc. Et c'est là qu'il y a les faux frères, hein, les fameux faux frères au chapitre 2, verset 4, qui se sont infiltrés comme des espions pour voir quelle liberté nous avons dans le Christ. Les faux frères, ils veulent voir quelle liberté nous avons dans le Christ. C'est exactement une question qu'on nous pose aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien? Vous êtes chrétien, vous êtes libre, ça veut dire quoi? Elle est où votre liberté aujourd'hui dans le Christ? Oui. Alors, c'est des faux frères parce qu'eux, ils sont en interne. Cette question, elle peut nous être posée à la fois par des gens de l'extérieur, hein, qui disent, comme dans les psaumes, pourquoi dira-t-on au donc et leur Dieu? Enfin, ça veut dire quoi être chrétien, être libre? Mais elle peut être aussi posée de l'intérieur. Et là, Paul, il fait référence, au fond, à une vision de l'intérieur, où certains vont dire, mais en fait, il va leur dire, en fait, si vous remettez en cause cette liberté donnée par le Christ, qui est librement a donné sa vie pour nous, c'est ça, être crucifié avec le Christ. Le Christ est crucifié en moi parce que librement, par amour, il donne sa vie pour moi, pour que je puisse vivre librement. On retrouve ça un peu plus loin, au chapitre 5, verset 1. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Les contre-prédicateurs ici, les adversaires de Paul, ceux qu'il appelle les faux frères, qui viennent de Jérusalem, qu'il a déjà rencontrés à Jérusalem et qui vont aller ensuite enquiquiner les Galates, ils vont leur dire, mais en fait, vous êtes libres que si vous obéissez à la loi. Votre liberté dans le Christ, c'est d'abord d'obéir à la loi, d'être circoncis et de pratiquer tous les commandements. Je peux déjà... Non, je reviendrai tout à l'heure. Et donc, à partir de là, à partir du chapitre 3, vous allez avoir en fond trois démonstrations qui vont prouver, dans lesquelles Paul va essayer de prouver cela. D'abord, une méditation sur Abraham. Donc, Paul se fait interprète des Écritures. Hein, il lit Abraham, en particulier le chapitre, l'appel d'Abraham, le chapitre 12, la promesse, et puis la foi d'Abraham au chapitre 15. Et il montre que les fils d'Abraham, ce sont les croyants. Les fils d'Abraham, ce sont les croyants. Et donc, ici, on a une vraie catéchèse sur le baptême, hein, sur recevoir donc cette descendance, hein, cette descendance à laquelle qu'Abraham a reçue. Et puis, ça s'achève à la fin du chapitre 3 par « Vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ ». On connaît bien cette parole qui accompagne le geste liturgique. Et donc, être fils de Dieu, c'est être libre. C'est être libre. Donc, la foi est donnée par le baptême. La foi est donnée par le baptême. Et en fait, on attendrait ensuite quoi ? On attendrait une seconde démonstration sur les œuvres. On a ça notamment dans l'épître aux Éphésiens, la foi qui donne d'agir de manière nouvelle. Ou on a ça dans l'épître de Saint-Jacques aussi différemment. Et en fait, à la place, on a une démonstration sur la liberté. Une démonstration sur la liberté avec notamment la parabole, la méditation sur Agar, et Sarah, les deux servantes. Deux servantes ont fait deux alliances. C'est donc au chapitre 4, verset 23. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. Vous savez que Agar, c'est la première femme d'Abraham. C'est la servante, parce que quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils, il dit, moi, puisque je suis trop vieux et ma femme aussi, il a d'abord pensé que ce serait peut-être son neveu, Lot. Mais non, c'est pas Lot. Ensuite, il s'est dit, si c'est pas, comme ma femme est trop vieille, ça va être ma servante, Agar. Et donc, il va avoir Ismaël avec Agar. Et puis, mais Dieu lui dit, c'est de toi, c'est de tes entrailles. Et donc, c'est Sarah qui va donner naissance à Isaac. Mais en fait, Paul va comparer Agar et Sarah à deux alliances, à deux manières de recevoir la liberté. La première, en fait, c'est d'être esclave, et la deuxième, c'est d'être libre. Et donc là, vous avez aussi un verset très important au verset 26, « La Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. » La Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. Et puis ensuite, troisième argumentation au chapitre 5, c'est assez classique dans les épîtres de Paul, qui est davantage morale. On dit souvent parénétique, on parle de parénèse, c'est-à-dire comment est-ce que maintenant on va agir selon l'esprit ? Comment on va agir selon l'esprit ? Et donc on a un catalogue de vices et de vertus assez classique, assez typique aussi des stoïciens, mais Paul va montrer évidemment ce que signifie vivre selon la chair, ou vivre selon l'esprit. On va y revenir. Et puis, ça se termine avec un post-scriptum à partir du chapitre 6, verset 11. « Regardez ce que j'écris en grandes lettres pour vous de ma propre main. » En fait, il est probable que cette lettre ait été écrite, comme à l'époque, ça se faisait beaucoup, par des secrétaires, par des professionnels. Et donc, Paul va signer lui-même cette lettre et va pour dire que mais c'est important, mais il y a plus que ça en fait, parce qu'au fond il va dire qu'il est lui-même, au fond il est lui-même cette lettre, hein, et que les Galates auxquels il s'adresse portent eux-mêmes aussi cette lettre de l'Évangile, cette lettre de la croix du Christ. Hein. Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Ça se termine par les stigmates de Paul, hein, si vous voulez, et par le rappel de la thèse par elle, par la croix, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Donc, j'écris en grandes lettres pour vous de ma propre main. C'est pour montrer, et Paul veut montrer comment c'est dans sa propre chair que le Christ agit. Alors, en fait, ce que je voulais vous proposer dans le temps qui me reste, c'est-à-dire plus beaucoup, non ? On a commencé à 50, donc je ne suis pas sûr d'avoir le temps de faire tout ce que je voulais, mais ce n'est pas grave, je répondrai aux questions. Ce que je peux dire, je voulais vous proposer un peu une relecture avec cette question de la liberté, mais on fera peut-être dans les questions. Deux choses encore que je voudrais vous dire importantes. Sur le rapport entre loi et foi, et chair et esprit, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Et souvent, les traductions françaises ne rendent pas très bien. Il est caricatural de dire, de Paul comme de Jésus, même si ce n'est pas expliqué tout à fait de la même manière, que la loi est abolie. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu 5, 17, vous avez peut-être parlé la semaine dernière. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, c'est très clair. Et Paul dit dans l'Épître aux Romains, la loi est bonne et sainte. Le problème ne porte pas sur le fait de savoir s'il faut pratiquer la loi pour les Juifs. Paul est un Juif observant, Jésus est un Juif observant qui pratique la loi, toute la loi. La question porte sur le fait de savoir est-ce qu'il faut que les non-Juifs pratiquent la loi. Et c'est ça qui va être l'objet de la discussion au Concile de Jérusalem, parce que ça a des conséquences vraiment très concrètes, notamment sur les repas, etc. Et donc, la réponse, je vais revenir dans un instant, mais ce que je veux dire, ce que sur cette parfois cette opposition entre la loi et la foi. Il ne s'agit pas de savoir, il n'y a pas d'opposition. La question, dans la lettre aux Galates, c'est par le jeu des prépositions que ça va se passer. C'est-à-dire qu'il faut étudier de près le texte grec pour voir que Paul dit le problème, c'est pas de pratiquer la loi, c'est d'être soumis à la loi, c'est d'être esclave de la loi. Et ce que veulent faire, en fait, les faux frères, les contre-prédicateurs, c'est de dire, en fait, si, c'est la loi qui vous sauve, donc vous devez vous soumettre, être soumis à la loi. Or, Paul, ce que dit Paul ici, au verset... j'ai perdu, mais je vais vous retrouver, parce que c'est écrit trop petit. Hein. La loi est un pédagogue. Donc, la loi est un pédagogue. Mais vous le retrouverez au chapitre 4, hein, au chapitre 3. Non, chapitre 3, mais c'est traduit par un guide. Chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi, comme un pédagogue, nous a menés jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi la justification. Donc, on n'est pas justifié. La justification, c'est déjà la première étape du salut. Hein. C'est ce que donne le baptême. C'est être rendu juste comme Abraham. On n'est pas justifié par la foi, par la loi, mais par la foi. On n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Et donc ça, c'est un élément vraiment important parce que qu'est-ce qui nous sauve, vous voyez ? Et ça va être toute la question qui va être prise, notamment par le Concile de Trente. Est-ce que c'est le Christ qui nous sauve ou est-ce que ce sont les œuvres qui nous sauvent ? Ça va être tous les débats entre les luthériens et les catholiques à ce moment-là. Donc la foi nous sauve, mais saint Paul dira c'est la foi agissant par la charité. Et c'est la foi qui, pour des juifs devenus chrétiens, leur donne de pratiquer la loi, mais en sachant que c'est Dieu qui leur donne la loi. En sachant que c'est Dieu qui leur donne la loi et que c'est pas la loi qui les sauve, c'est Dieu. Et que fait la loi ? Alors saint Paul insiste encore plus là-dessus dans l'Épître aux Romains, mais il le redit aussi ici. La loi, elle nous révèle notre péché. Au fond, elle nous révèle que nous n'arrivons pas à l'accomplir par nous-mêmes si ce n'est pas le Christ qui l'accomplit en nous. Ça va ? Donc, ce n'est pas une opposition entre foi et loi, c'est une opposition entre est-ce qu'on est soumis à la loi ou est-ce qu'on est soumis au Christ. Être soumis à la loi, c'est un esclavage. Être soumis au Christ, c'est une liberté, c'est une libération. Est-ce qu'on pense que c'est la loi qui nous sauve parce qu'on pratiquement on est sauvé ? C'est une question aussi très actuelle pour nous. Qu'est-ce qui nous sauve ? C'est d'aller à la messe, c'est de prier le chapelet, c'est de verser le denier du culte, etc. Ou c'est de croire au Christ qui nous donne d'agir ainsi. Oui. Pas se tromper d'ordre. Où est la source ? C'est toute la question de l'évangile de saint Matthieu aussi, hein, que vous avez étudié la semaine dernière. Et dans l'évangile de saint Matthieu, les pharisiens s'auto-justifient ou s'auto-rassurent. Non, parce qu'on a fait ça, on a le droit. C'est la même question. Dans un autre contexte. Et donc ça permet d'introduire une autre tension qui est au chapitre 5, là, entre la chair et l'esprit. Saint Paul n'est pas contre la chair. Mais dès le début, il dit ce n'est pas selon la chair. Donc il s'agit de ne pas être sous la loi, il s'agit de ne pas être, c'est-à-dire soumis à la loi, hein. Il s'agit de ne pas être selon la chair. C'est-à-dire qu'on vit dans une chair remplie d'esprit, habitée par l'esprit. Donc l'opposition, elle n'est pas entre chair et esprit, elle est entre chair sans esprit ou chair avec esprit. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chair sans esprit. Et donc, vous savez, tout, là, vous avez la fin du chapitre 5, hein, qui est quand même bien connu. On sait bien à quelles actions mène la chair, chapitre 5, verset 19. Et là, vous avez une longue litanie qui vous fait vomir, voire inconduite, impureté, débauche, etc. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, etc. Ceux qui sont au Christ, verset 24, ont crucifié en eux la chair. Donc, en fait, c'est une chair crucifiée et ressuscitée qui permet à l'esprit d'habiter en elle. Donc l'opposition, elle n'est pas entre chair et esprit, elle est entre la chair sans l'esprit et l'esprit dans la chair. Elle est être selon la chair ou selon l'esprit. Même qu'on est soit soumis à la loi, soit soumis au Christ. Ça va ? Pardon, je suis obligé d'être assez rapide. Mais voilà. Et puis, alors ça, c'était le premier point que je voulais reprendre sur qui fait qu'on dit de cette épître que c'est en effet une épître sur la justification par la foi. C'est la foi au Christ qui sauve. C'est la foi au Christ qui sauve, c'est pas la pratique de la loi qui sauve. Mais il y a un autre élément qui est important, qui est la question de la communion ecclésiale. C'est une épître aussi sur l'Église. Parce que Paul, en fait, il dit d'abord qu'il va à Damas, etc., pour commencer son ministère, donc juste après son baptême, il dit je suis retourné à Damas sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Vous voyez, c'est assez brutal, en fait. Donc, au début, il fait cavalier seul. Il faut toujours se méfier des cavaliers seuls dans l'Église. Et en fait, il va se raviser, en fait. Après 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et des apôtres. Au début, il a vu seulement Pierre et Jacques. Et puis, au bout de 14 ans, j'y suis revenu. Et puis là, on s'est disputé, etc. Mais en fait, il dit quand même, Jacques, Pierre et Jean, verset chapitre 2, hein, verset 9, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion. Donc, c'est aussi une épître sur la communion dans l'Église. Et en particulier la communion entre ceux qui viennent du judaïsme et ceux qui viennent du paganisme. Alors aujourd'hui, je suis d'accord que la proportion s'est inversée, mais il est important aujourd'hui qu'il reste dans l'Église des Juifs devenus chrétiens. J'ai eu la joie d'accompagner un peu une communauté à Paris qui sont des Juifs baptisés. Donc c'est vraiment impressionnant. La première fois que je les ai rencontrés, j'avais l'impression d'avoir les apôtres devant moi. C'est que des Juifs devenus chrétiens, mais avec toutes sortes d'itinéraires très différents. Et vous avez à Jérusalem une communauté de Juifs devenus chrétiens, avec laquelle nous avons beaucoup de liens, qui célèbre en hébreu, etc., et qui veut manifester cette présence dans l'Église aujourd'hui encore de Juifs devenus chrétiens, comme l'étaient Marie, les apôtres. Le cardinal Lustiger à Paris, évidemment, pour nous, est une figure importante. Et donc, il y a cette communion, mais vous voyez, ça va devenir, au fond, on pourrait dire, un principe de communion aussi dans l'Église. Dans l'Église, il y a une communion entre des gens qui viennent de traditions différentes. Voilà. Et qui peuvent se disputer, comme Pierre et Paul à Antioche, hein, parce qu'en fait, quand à Antioche, donc Antioche, c'est Antioche de Syrie, c'est à la frontière entre la Turquie et la Syrie actuelle, hein, c'est le gros centre, c'est là qu'on a appelé pour la première fois les disciples du nom de chrétiens. Et donc, c'est après Jérusalem, c'est le centre chrétien et où il va y avoir des Juifs, justement. Et donc, Paul raconte qu'il voit Pierre prendre ses repas avec les païens, etc., sans faire tous les rites et tout ça, et puis que quand les Juifs arrivent, par crainte des Juifs, il se remet à faire les rites juifs. Et donc il l'engueule, hein, en disant, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives, pardon, verset 14. Donc, c'est cette question de la communion des tables, on en a un écho dans l'Évangile aussi, parce que la multiplication des pains, je ne sais pas si Père Lepouf a le temps de vous en parler, est racontée 2 fois dans l'Évangile, le même événement. Il y a peut-être eu lieu 2 fois, mais il y a une fois où il est raconté pour les Juifs, une autre fois plutôt pour les païens. C'était vraiment, à l'époque des premiers chrétiens, une question, est-ce qu'on peut manger à la même table? Alors, il y a 2 ans, j'ai accompagné, pratiquement jour pour jour, la fin novembre, j'ai accompagné mon cerveau petit aux États-Unis pour rencontrer des rabbins. C'était avec une douzaine d'évêques français qui rencontraient des rabbins juifs, ce qu'on appelle de l'orthodoxie moderne, et qui déjà voulait bien nous accueillir, c'était très, très intéressant. Mais par exemple, c'était impensable de prendre un repas avec eux. Donc, ils nous accueillaient chez eux, dans leur salon, mais c'était pour un thé, etc. Donc, c'était vraiment des retrouvailles. Et moi, je pensais à l'époque aux Galates. Hein. Vous aviez quelques familles juives de New York qui recevaient 12 évêques français sur leur siège. Et alors, impossible de prendre un repas, parce que alors, si vraiment, pour eux, on risquait de trahir des coutumes juives au niveau des repas, etc. Oui. C'est quand même une question, en fait, qui, l'air de rien, peut encore se poser. Mais évidemment, pour les chrétiens, l'Eucharistie est pour les juifs, en tout cas pour les judéo-chrétiens et pour les pagano-chrétiens. Donc, cette communion dans l'Église, elle est vraiment importante ici. Et qu'est-ce qui va être, en fait, le signe de cette communion? C'est un petit verset très important, hein, à la suite, là, toujours au chapitre 2, au verset 10. Ils nous ont seulement demandé. Donc, Pierre, Jacques et Jean disent aux païens devenus chrétiens, vous êtes dispensés d'une certaine manière de la loi juive. En revanche, vous pouvez, quand on lit dans les actes des apôtres, il s'agit surtout de pratiquer la charité et de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Mais là, Paul n'en parle pas ici. En revanche, ce qu'il dit, c'est, bon, on s'est répartis d'une certaine manière, il y en a qui vont prêcher plutôt aux païens et d'autres plutôt aux juifs, ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Autrement dit, le service des pauvres, ce qu'on va appeler dans l'Église l'option préférentielle pour les pauvres, le service des pauvres est toujours comme le critère ultime de la vérité de la communion ecclésiale. Est-ce qu'on vit... Oui, il s'agit même... C'est déjà une chose de savoir que ce n'est pas la pratique de la loi qui nous sauve, que c'est le Christ, c'est la foi au Christ. Et si Paul prend Abraham, c'est parce qu'Abraham est avant la loi, précisément. C'est la promesse faite à Abraham. Mais ça, c'est comme dans l'Épître aux Romains, il y a exactement la même démonstration. Mais il faut encore autre chose pour être vraiment chrétien. et pour être vraiment libre, c'est vivre la communion dans l'Église avec ceux qui ne viennent pas des mêmes traditions, qui n'ont même peut-être pas tout à fait les mêmes pratiques. Donc, c'est vraiment une sorte de modèle de communion, on pourrait dire, différencié, enfin, comme une communion de singularité, c'est ça le catholicisme, en fait. Et en fait, cette communion, elle est attestée par le fait que les uns et les autres s'occupent des pauvres. Et donc, le service des pauvres est dans l'Église le critère d'une communion véritable. On ne peut pas se dire en communion véritable les uns avec les autres si on ne sert pas les pauvres. Bon, pardon, c'est très décousu parce que je n'ai pas eu le temps de vous écrire un texte, mais au moins j'ai parlé de un peu d'abondance de cœur et de cette épître que j'aime beaucoup. Alors, comment dire, Zoom ne nous a pas arrêtés, donc c'est bizarre, on a le droit de continuer. Il y a peut-être une promo pour le confinement, je ne sais pas. Est-ce qu'Ombline est toujours avec nous? Oui, Ombline est là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions, il y a des tas de choses que je n'ai pas pu dire, évidemment. C'est le but, enfin, en pensant à ce que j'allais vous dire, mon but, c'est de vous donner envie de lire cette épître. Je ne sais pas quel était. J'ai pas eu de charte et de feuille de route très précise pour cette conférence. Vous me sentiez assez libre d'essayer de vous transmettre mon amour de cette épître et de saint Paul, et même si j'en suis loin d'être un spécialiste, et de vous donner envie de la lire, déjà tout simplement, et avec votre crayon de souligner des choses qui vous marquent, de la lire et de la relire. Mais vous l'aviez peut-être déjà lu, vous avez peut-être des questions pertinentes à poser, voilà. Donc déjà, nous avons une question ici.
Qu'est-ce que tu entends par la justification? Est-ce que là, c'est dans le contexte de justification par rapport aux autres, aux païens, aux faux frères? Ou est-ce aussi une justification plus grande?
La justification, c'est un terme technique, qui est devenu technique, évidemment. Paul l'emploie. Paul est bien avant tous les développements dogmatiques qui se feront plus tard. Et donc, la justification dans la foi chrétienne, ça a été en particulier précisé par le Concile de Trente, qui a un décret sur la justification. La justification, ce qu'on avait étudié à la fin de notre séminaire sur l'Épître aux Galates, vous voyez, toute l'Épître aux Galates conduit au fond à ce décret-là. La justification, c'est vraiment être rendu juste par Dieu par le baptême. Ce qu'on appelle la justification par la foi. Donc c'est pas une question. Attention, oui, pardon, il peut y avoir une erreur. Enfin, il peut y avoir une mauvaise compréhension de vocabulaire. C'est pas s'auto-justifier par rapport dans le débat. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a un danger qui est de s'auto-justifier. Alors ça, le Concile de Trente est radical là-dessus. Nul ne peut prétendre être par soi-même être juste. Et en fait, c'est Dieu qui nous rend juste. La justice de Dieu, c'est de nous rendre juste comme il est juste, et de nous faire pratiquer des œuvres justes, de nous justifier par la foi qui nous fait pratiquer des œuvres justes. Et donc la justification dont il s'agit, c'est le don fait au baptême de la vie de Dieu. C'est vraiment ça que ça signifie. Et on pourrait dire que c'est le premier pas vers le salut. En général, on associe justification, adoption filiale, vous avez dit aussi sanctification, et le salut. Mais le salut, c'est plutôt la perspective eschatologique, si vous voulez.
Et donc, que dit le Concile de Trente? Vous avez une définition?
Vous avez le décret sur la justification qui s'exprime en termes assez techniques. Là aussi, vous pourrez demander à votre aumônier, qui est beaucoup plus spécialiste du Concile de Trente que moi, mais il parle d'un transfert. C'est vraiment le mot le plus technique. Voilà, c'est la vie de Dieu. Nous sommes pécheurs ici, et donc par sa mort et sa résurrection, mais c'est un terme aussi qu'on retrouve dans les épîtres de Paul. Par exemple, dans l'épître aux Colossiens, ce qu'on appelle Colossiens et même peut-être Éphésiens, je pense, dans les hymnes. Donc, vous savez, Colossiens, Éphésiens et Philippiens commencent par une grande louange qu'on reprend dans la liturgie aux Vêpres chaque soir de la semaine, enfin trois soirs par semaine, ces trois épîtres. Et il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est dans Colossiens, je pense. Il nous a transférés. Donc, en fait, c'est un terme technique, évidemment, qui pour nous est peut-être un peu déroutant, mais en fait, on reçoit cette vie de Dieu en nous. Et c'est cette foi, la foi nous donne d'accueillir pleinement la vie de Dieu en nous pour pouvoir pratiquer des œuvres. Parce que c'est la réponse à Luther aussi, et donc le Concile de Trente. Et donc, qui dit, seule la foi sauve. Non, c'est la foi agissant par la charité. La foi agissant par la charité. Et donc, cette foi, cette justification, elle nous donne d'agir selon la foi que nous avons reçue, mais c'est le don. En fait, la justification, c'est ce que dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et cette justification, on la reçoit comme fils d'Abraham, puisque dans toute la Bible, la première fois qu'il y a le mot foi, c'est à propos d'Abraham, Genèse 15, 6, donc chapitre 15, verset 6. C'est l'alliance avec Abraham. Je ne sais pas si vous avez en tête cet épisode. Quand Dieu lui demande de couper en deux des animaux, il va passer au milieu, etc. Bon. Et Abraham eut foi dans le Seigneur et cela lui fut compté comme justice. Donc, c'est difficile à traduire en hébreu aussi, mais en tout cas, Abraham eut foi dans le Seigneur parce qu'il était juste. En tout cas, donc, c'est cette justice de Dieu. Et donc, c'est là-dessus que Paul s'appuie, hein, dans Galates comme dans Romains, pour dire en fait, c'est la foi qui justifie. Mais la foi comme un don de Dieu reçu au baptême, vous avez revêtu le Christ, mais qui ensuite va être actif, va nous rendre actifs pour faire le bien, pour, et donc là vous avez le chapitre 5, hein, pour agir dans l'esprit. Quoi. En tout cas, vous avez été appelés à la liberté, mais que c'est donc le chapitre 5, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage, hein, la soumission dont je parlais, le joug de l'esclavage. Et donc, ensuite, on peut dire encore, hein, vous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'esprit, en effet, que de la foi, nous attendons la justice espérée. Car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas qu'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Voilà un 5-6, pardon. J'aurais dû vous le dire depuis longtemps. Votre course partait bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain suffit pour que toute la pâte lève. Moi, j'ai dans le Seigneur la conviction que vous n'adopterez pas une autre façon de penser. Quant à celui qui met le trouble chez vous, encore les faux frères, les fauteurs de troubles, et moi, frère, si comme certains le prétendent, je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Et donc, vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme, mettez-vous par amour au service des uns des autres. Donc, Paul, il ne dit pas du tout qu'il ne faut pas agir au service de la charité. Hein. Toute la loi est accomplie dans l'unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais cette parole, en fait, elle n'est audible que parce qu'on a, ou elle n'est plutôt applicable, elle ne peut s'accomplir que parce qu'on a reçu, la foi. Donc, marchez sous la conduite de l'esprit, ne risquez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Et puis, il y a cet affrontement entre la chair et l'esprit en nous, hein, les tendances de la chair et les tendances de l'esprit. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les tendances de l'esprit dans la chair ou les tendances de la chair sans l'esprit qui vous empêchent de faire tout ce que vous voudriez. C'est ce que Paul dit aussi dans l'Épître aux Romains, disant que je veux faire et je vois le mal que je fais. Donc, la justification, c'est vraiment être justifié, c'est-à-dire être rendu conforme à la justice de Dieu qui me donne de croire en lui et de croire qu'il me permet d'agir selon la charité, selon l'amour ici. Ça va ou pas? Mais vous pouvez lire ce décret, il n'est pas très long et il est vraiment important.
La justification, c'est d'être rendu capable.
C'est d'être rendu juste d'abord. C'est pas d'abord au niveau de l'agir, c'est d'abord au niveau de l'être. C'est d'être rendu juste, de la justice même de Dieu, qui me donne d'agir comme lui.
Non, c'est pas possible. Si on est rendu juste, comment peut-on empêcher?
Ben voilà, donc ça va être évidemment la grande question. Et c'est, au fond, c'est une des questions de l'Épître aux Galates. À partir du moment où vous êtes les premiers chrétiens, se sont posés cette question. Comment se fait-il, une fois qu'on est baptisé, qu'on continue de faire des péchés? Parce que le baptême nous délivre du péché originel. Donc, cette justification, c'est aussi être libéré. C'est ce que dit Paul. Le Christ nous a libérés. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté reçue? Et donc, cette liberté, en effet, elle nécessite un deuxième choix libre. Et c'est pour ça que dans les premiers temps de l'Église, il n'y avait pas de confession. Alors, et puis après, on a introduit qu'il y avait une possibilité, une fois, de se confesser. D'abord, ce n'était pas la confession privée, et que ça, c'est souvent des confessions publiques, mais on avait la possibilité de recevoir une fois. Et puis après, peu à peu, on s'est rendu compte que maintenant, on pouvait le recevoir plusieurs fois, oui.
Tout sur cette histoire de justification, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension un petit peu juridique et comptable? Il me semble avoir entendu qu'il y avait ça un petit peu au moment où le Christ décède sur la croix, quand il dit tout est accompli ou tout est payé. Est-ce que quand vous dites vous êtes justifié, est-ce que c'est pas cette idée un peu dont on raye la dette?
Tout à fait, c'est tout à fait. D'abord, donc, dans le Concile de Trente, il y a ce vocabulaire juridique, ça c'est sûr. Et puis, dans l'Évangile aussi, hein, vous avez ce vocabulaire, « remets-nous nos dettes comme nous les avons remis hein. ». Et vous avez ça aussi dans l'Épître aux Galates, que je vous retrouve ça. Donc, il a au chapitre 3, le Christ. Donc, il y a tout un raisonnement compliqué sur la malédiction, etc. Voilà, chapitre 3, verset 13. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction. Donc, en fait, il a pris sur lui, il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice, il a pris sur lui la malédiction. Le Christ est devenu pour nous malédiction pour que cette malédiction soit retournée en bénédiction. Donc, il nous a rachetés. Alors, évidemment, le rachat ici, c'est à la fois, c'est un terme juridique en effet, mais qui fait sans doute référence à la fois au contexte de l'Empire romain dans lequel Paul se situe, mais aussi au rachat dans l'Ancien Testament où en particulier l'époux pouvait racheter son épouse quand elle avait été infidèle. Et on a ça dans différents livres, certainement dans le livre de Ruth notamment. Mais il me semble qu'il y a encore un autre passage encore plus juridique ici.
Toute la question de l'héritage, non ?
Oui, sur l'héritage et puis sur. Je vais peut-être vous retrouver tout à l'heure. En tout cas, l'héritage, c'est sûr. Hein, au début de chapitre 4, mais il y a encore où je vais vous retrouver autre chose encore. Il a payé pour nous. Voilà. Mais peut-être que c'est ce qui est traduit là par racheter. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a ce vocabulaire juridique, c'est clair. Autre question.
On a des questions dans le chat, je crois, mon père, ah oui, si vous allez voir.
Je vais voir. Alors, comment faut-il articuler la loi à la foi, comment imiter juste dans sa judaïté ? Oui, c'est une belle question hein, que j'ai essayé d'aborder déjà un petit peu. En tout cas, ce qui est clair hein, quand on lit l'Épître aux Galates, comme l'Épître aux Romains, comme les Actes des Apôtres, comme l'Évangile, c'est que la loi est bonne. Hein, donc, il ne s'agit pas de la... Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. C'est un immense sujet parce que malgré tout, les premiers chrétiens déjà ont décidé de ne plus, hein, en tout cas, ont compris qu'ils ne devaient pas, en tout cas, pour les juifs qui n'étaient pas soumis à une stricte observance de la loi, peu à peu ils s'en sont quand même détachés, et surtout que ceux qui n'étaient pas juifs n'étaient pas soumis à cette observance. Mais donc ça c'est un premier élément. C'est-à-dire que la loi est bonne. Mais elle est sainte, mais saint Paul dit ici, elle est un pédagogue, elle nous conduit au Christ. Hein. Donc elle nous conduit au Christ, c'est-à-dire que par le Christ, nous en sommes libérés. Tout dépend ce qu'on met. Évidemment, ce mot loi, il est assez vaste, vous le savez bien, parce que dans l'Église, il y a bien des lois. Par exemple, on dit parfois, on simplifie trop, vous voyez, en disant Jésus dit qu'il n'y a plus de loi, maintenant c'est tout est spirituel. Ben non, il y a plein de lois, il y a des lois. Il y a les 10 commandements. Jésus nous a redonné les 10 commandements. Vous voyez, donc, alors, Saint-Irénée, par exemple, va faire une distinction en disant les 10 commandements, ce sont justement des préceptes de la liberté. Ils sont faits pour la liberté. Et en revanche, il y avait 613 commandements. Donc, d'ailleurs, les Juifs, vous savez, ne parlent pas de commandements pour le décalogue. Hein, c'est les 10 paroles. C'est les paroles que Dieu vous a données. Et donc, ces 10 paroles, en fait, c'est le bien propre de toute l'humanité, tu ne pourras pas de faux serments, etc. Mais qui ont été rappelés par l'Ancien Testament parce que l'homme les oubliait et que Jésus va nous redonner. Jésus va nous dire, à travers notamment la rencontre avec le jeune homme riche, hein, commence par observer la loi. Après, il y a ce qu'on appelle les 613 commandements, davantage des commandements liés au peuple d'Israël qui attend le Messie, si vous voulez. Et Saint-Irénée dira, ça, c'est les préceptes de la servitude. Et ça, on n'est pas tenu de les appliquer. Alors, mais cela dit, il y a d'autres commandements. Il y a, par exemple, dans la liturgie, c'est bourré de commandements, c'est bourré de règles, vous voyez, qu'on respecte. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a plus de loi. Il s'agit de dire que ce n'est pas la loi qui nous sauve. Ce n'est pas parce que j'aurais bien respecté la loi, j'aurais bien respecté quelle qu'elle soit. Là, on parle d'une loi divine. Hein, je parle pas, quand même, il y a plusieurs sortes de lois divines, mais je ne parle pas des lois civiles. C'est encore un autre sujet qui est connecté, mais ce n'est pas tout à fait le même. Donc, c'est là parce que j'aurais bien pratiqué la loi de Dieu que je serai sauvé, que je serai justifié et que je serai sauvé. Donc, c'est pas une dénonciation de la loi, c'est une question de quel rapport on a à la loi. Et c'est intéressant de voir le rapport que des gens comme Paul ont à la loi. Parce qu'ils sont juifs devenus chrétiens, ils pratiquent la loi pour comprendre, nous, notre propre rapport à la loi et, on dirait aussi plus largement, au rite. Parce que notre loi, elle est assez rituelle. Les 613 commandements, en vérité, dans l'Ancien Testament, c'était beau. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de commandements rituels. Et donc, moi, en tout cas, une réponse que j'aime bien donner, c'est que puisque Jésus observe la loi strictement, et que nous sommes son corps, en fait, il l'observe pour nous. Il l'observe pour nous, cette loi. Et donc, on n'est pas tenu d'observer cette loi quand on n'est pas juif de naissance. Après, c'est une question que se posent aujourd'hui concrètement des juifs baptisés. Mm-hmm. Et donc, j'ai une très bonne amie à Jérusalem qui est juive chrétienne, elle essaye au maximum de pratiquer la loi juive dans tout ce qu'elle peut faire, et en particulier, mais évidemment quand il y a un conflit, ne serait-ce que de date par exemple, voilà, ben, en fait elle pratique évidemment la loi juive, cède devant son attachement au Christ et à l'Église. Et donc c'est intéressant parce que bon, un jour vous êtes peut-être déjà allé en Terre Sainte avec le père Eiffel, vous l'avez rencontré, Rivka, et en fait c'est vraiment intéressant de l'entendre de témoigner de ça. Ce qui est très beau chez les Juifs dans leur pratique de la loi, c'est de reconnaître qu'ils ne sont pas les maîtres du monde, qu'il y a une irréductibilité. Le samedi, on ne travaille pas, etc. Vous voyez, nous, on a un rapport, on dit, le vendredi, on mange du poisson. Mais ce n'est pas idiot, en fait. Alors, bien, si c'est du saumon fumé, c'est peut-être pas ça à l'esprit. Mais vous voyez, mais peut-être que si, c'est-à-dire que c'est inscrire dans le temps... et dans l'espace, c'est une trace du fait que c'est pas qu'on ne maîtrise pas totalement le mystère de Dieu, le mystère de la vie. Et donc ça, c'est quand même ça qui est très impressionnant dans la pratique juive de la loi. Mais on sait que c'est pas ça qui nous sauve. Et c'est pas parce qu'on a mangé de la viande le vendredi qu'on va être plus en enfer. Quoi. Mmh. Vous voyez, volontairement, je prends un exemple caricatural. Mais donc voilà. En tout cas, quand on est baptisé non juif, c'est sûr qu'on n'est pas tenu d'appliquer la loi juive. Hormis les 10 commandements, hein, et que l'Église s'est appropriée en disant le commandement du sabbat, c'est le commandement de sanctifier le dimanche. Hein. Ça, vous avez ça dans le catéchisme de l'Église catholique, en toutes lettres, hein, les commandements de l'Église. Quand même, le catéchisme de l'Église catholique, c'est un choix qui avait été fait. Je me souviens d'une conférence de Cardinal Schönborn qui nous racontait ça, qui en avait été le secrétaire, de dire la morale chrétienne, on va la présenter comment ? Ils ont beaucoup hésité, ils ont tergiversé dans tous les sens. Voilà, et tout le monde n'était pas d'accord avec ça, on va la présenter à partir des 10 commandements. Que Dieu donne à Moïse sur la montagne et que Jésus redonne au jeune homme riche. Mmh. Certains avaient dit, ben non, il ne faut pas faire ça parce que Jésus nous a libérés. Mmh. Vous savez, vous avez quand même une vieille tendance dans l'Église qui vient de ce fameux Marcion au début de l'Église, de dire, ben, Dieu maintenant nous a libérés de la loi. Non, il ne nous a pas libérés de la loi, il nous a libérés d'un possible esclavage de la loi. Voyez, mais au fond, quand Dieu donne la loi à Moïse, Moïse, il comprend, il reçoit la loi comme un homme qui sait que c'est Dieu qui sauve. Hein. Et parce qu'il est un descendant d'Abraham, c'est ce que montrait Paul en fait. Je ne sais pas s'il est bien entendu là. Il est encore affiché. Alors, comment faut-il imiter Jésus dans sa judaïté ? Mais justement, je pense qu'il ne faut pas l'imiter en fait. Dans sa judaïté. Moi, il faut recevoir de lui le fait qu'il est juif et qu'il vit pleinement la foi juive. Jésus n'est pas un transgresseur. Jésus n'est pas un transgresseur. Il ne transgresse pas le sabbat. Ce n'est pas vrai. Il redonne au sabbat son sens premier, qui est de permettre la communion entre Dieu et les hommes. Donc, et ce que les pharisiens, qui sont un peu en effet du même style que les faux frères ici, avaient oublié, vous voyez. Et puis il y a une autre tendance qui est très pharisienne dans l'évangile, on voit ça surtout chez saint Marc. Jésus dit, Jésus ne dit jamais il ne faut plus pratiquer la loi, etc. Mais ce qu'il reproche aux pharisiens, c'est qu'au lieu de se laver les mains avant le repas, ils se lavent le coude, si vous voulez. C'est comme quelqu'un à qui on dirait, il ne faut pas rouler. Tu ne dois pas dépasser 130 sur l'autoroute et qui, du coup, par précaution, roulerait à 50, vous voyez. On est en plein dans cette... Honnêtement, là, je parle d'une loi civile exprès, mais on est en plein dans ces questions-là aujourd'hui, hein, sur le rapport à la loi. Et donc, les pharisiens, ils vont surgonfler la loi parce que ça les rassure aussi en se disant, si on la pratique et qu'on la pratique encore un peu plus que ce qui est demandé par Dieu, on sera sauvé, c'est sûr. Et Jésus va leur montrer, mais c'est pas ça, c'est pas la loi qui vous sauve. Donc, la loi, elle va d'abord vous montrer que vous n'arrivez pas à l'appliquer. Et y compris les 10 commandements. Parce que qui peut dire qu'il n'a jamais commis l'adultère en convoitant la femme de son prochain, etc. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile. Hein. Saint Matthieu, en fait, je parle plus de Saint Matthieu que de l'Épître aux Galates, mais c'est assez connecté. Mais c'est pas raconté de la même manière. Mais donc, c'est vraiment la question, c'est est-ce qu'on est esclave d'une loi et est-ce qu'on se. Parce que chez Matthieu, c'est plutôt est-ce qu'on pense que c'est la loi et qui nous est-ce qu'on se rassure, est-ce qu'on s'auto-justifie avec la loi? Ici, on est moins dans l'auto-justification que dans le fait que c'est la circoncision en particulier qui va. Parce que le vrai sujet, là, c'était la circoncision pour la loi. Est-ce qu'il faut circoncire ceux qui n'étaient pas juifs et qui deviennent chrétiens, oui. Mais en fait, déjà dans l'Ancien Testament, vous avez ça, la circoncision, les prophètes disent si vous êtes circoncis dans la chair, mais que vous n'êtes pas circoncis du cœur, ça ne sert à rien. En fait, tout ça, ce n'est pas très nouveau en réalité. Hein. C'est déjà dans les prophètes. Isaïe, etc. Je ne supporte plus vos fêtes, etc. Votre jeûne ne sert à rien si votre jeûne, ce n'est pas servir le pauvre, justement. Hein. Et libérer l'esclave, on a ça au début du carême. Et Isaïe, il ne dit pas ça pour dire qu'il ne faut rien pratiquer. Mais en fait, ce peuple est loin de moi, dit Isaïe, et Jésus reprend ça, parce qu'il m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'imiter Jésus dans sa judaïté, mais il s'agit de reconnaître dans la manière dont Jésus pratique la loi, Jésus et Paul, hein, qui a été un fidèle observant de la loi, hein, Jésus, dans la manière dont Jésus et Paul pratiquent la loi, un rapport de liberté à la loi de Dieu, pour nous. Ça va, ouais. C'est des questions extrêmement délicates, c'est des heures de débat, je peux vous dire, dans un séminaire sur l'Épître aux Galates. Hein. C'est une question qui revenait chaque semaine. Hein, donc je ne prétends pas la résoudre en 10 minutes, mais au moins vous donner quelques éléments. Et puis c'est intéressant pour nous, parce que ça pourrait être une tentation. Parfois, on rencontre des gens qui disent « Ah, mon père, au moins… » Alors, je mets à part les musulmans, mais parfois, on met un peu tout le même sac. Au moins, chez les musulmans, c'est clair, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et alors, parfois, les gens disent « Au moins… » aussi libéral en particulier, c'est vraiment une orthopraxie, c'est vraiment il faut agir droit et alors la foi en revanche on sait même plus où on est. C'est un rabbin qui suivait des cours qui nous disait ça, mais il n'y a plus de transcendance dans le judaïsme libéral, hein. Le problème c'est que le judaïsme en a tellement de différents que c'est difficile, mais en tout cas le judaïsme libéral qui est majoritaire en France, la question c'est pas tellement de savoir si on est en relation avec Dieu, savoir ce qu'on a à faire. Et je me souviens d'une conférence au Bernardin entre Mgr 23 et le grand rabbin à l'époque, et une dame à la fin posait la question: vous, monsieur grand rabbin, qui êtes en relation directe avec Dieu, tout. Alors, elle a dit: moi, j'en sais rien, madame, j'en sais rien. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, c'est Mgr 23 qui a repris les choses du point de vue plus théologique ou plus mystique. Quoi. Mais donc, en fait, mais la question, c'est pas tellement, pourquoi disais ça, c'est pas tellement simplement ce qu'on doit faire, c'est d'abord ce qu'on doit, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on est dans une relation personnel, intérieur avec le Christ. C'est le Christ qui vit en moi et qui convertit ma manière de vivre. Et bien sûr, qui me donne une loi, qui me dit, tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est clair que, voilà, il me redonne les 10 commandements et puis il me donne aussi le commandement de l'Église, de servir les pauvres, etc. Tout ça, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de loi, hein, mais la loi, voyez, c'est la conversion au Christ qui permet de recevoir la loi nouvelle. Alors, saint Thomas d'Aquin dit, la loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint, en fait. La loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint qui nous donne, c'est l'Esprit du Christ qui nous donne d'agir et qui va en effet nous faire agir de manière très concrète. Il y a bien des préceptes à observer quand on est chrétien, quand on est catholique. Il y a le magistère de l'Église, et voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Vous voyez, toute la doctrine sociale de l'Église, toute la morale sexuelle et familiale de l'Église, elles sont bien fondées, mais elles sont fondées sur le fait que c'est le Christ qui vit en moi. Il peut arriver qu'on se convertisse au Christ par une pratique, etc. Voilà. Mais, et donc certains sont fascinés, hein, par les juifs, par les musulmans qui ont l'air d'avoir une pratique beaucoup plus rigoureuse que nous et disent, nous les chrétiens on est quand même très cool, et c'est pas faux sur certains points, mais on se convertit d'abord au Christ qui révèle en nous son fils, à Dieu qui révèle en nous son fils, et au Christ qui est crucifié en nous. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et si le Christ vit en moi, il me donne d'agir d'une manière nouvelle. D'accord. On arrête quand vous voulez, parce que je ne sais pas, on a dépassé le temps, mais s'il y a encore des questions, je veux bien. Mais... Vous avez envie de lire un peu plus cet épître, c'est une bonne chose, j'espère. Je regarde ce que j'avais prévu de vous dire un peu, mais je pense que je vous ai quand même dit pas mal de choses que je voulais vous dire. qui est intéressant aussi dans l'Épître aux Galates, je n'ai pas beaucoup développé, c'est la question. J'ai dit un petit peu que Paul présente son expérience apostolique comme celle d'une mère, hein, où, que c'est chapitre 4, verset 19-20, la vie enfantée, etc. Et alors, parce qu'il est en train de parler de la Jérusalem céleste qui est notre mère. Il y a un très beau passage sur la Vierge Marie, au chapitre 4, verset 4, c'est facile, c'est Galates 4-4. Hein, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse. Oui, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter. Alors là, on a encore en effet le racheter, hein, de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Et donc, le Christ se soumet à la loi. Au sens fort, il la prend comme un joug aussi pour pouvoir racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons libres par rapport à cette loi. Mais surtout, ce que je voulais souligner ici, c'est que, en fait, c'est là aussi, c'est aussi une autre dimension ecclésiale de l'Épître aux Galates, c'est la maternité de la Vierge Marie et de l'Église. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, l'adage patristique, nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère. Et donc, Paul montre aussi qu'il veut montrer qu'on est des fils, hein, c'est de la liberté filiale, c'est l'esprit qui nous fait dire fils, etc. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Hein, au chapitre 4, là, verset 7, 5, 6, 5, pardon, 7, pardon, 6, 7, 7. Hein, si tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Mais tu es fils du Père parce que tu as une mère aussi qui est l'Église. Et Paul ici est à la fois du côté du Père, mais aussi de la mère. Hein, on pourrait dire. Et puis, il y a aussi une dimension fraternelle importante. Dès le début, Paul dit moi, Paul, apôtre, et tous les frères qui sont avec moi. Donc, un peu toutes ces dimensions. Il y a toujours chez Paul une ecclésiologie comme ça, très, en particulier dans l'Épître aux Galates et l'Épître aux Éphésiens, qui est vraiment importante. Et voilà. Il dit au chapitre 6, verset 2, c'est la loi du Christ, en fait. Hein. Donc voilà, la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Donc, la loi du Christ, c'est porter les fardeaux les uns des autres. La loi du Christ, c'est la charité fraternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Verset 6, 9.